Vous écoutez, on lit pour vous.
La génération qui ne parle pas au téléphone. Un dossier de Megan Foy paru le 18 janvier 2025 dans la presse. Les jeunes préfèrent les textos. Le téléphone jaillit ça. Avoue d'emblée Maxime Larouche, 23 ans. Pour l'animateur de radio de Québec, tout est mieux que de parler au téléphone. J'adore recevoir et envoyer des courriels, ou encore mieux, ce qui peut se régler avec un simple petit texto. Maxime dit même préférer tomber sur une boîte vocale ou rencontrer son interlocuteur en personne que d'échanger au téléphone. Maxime n'est pas un cas unique. La jeune génération fuit les conversations au téléphone qu'elle juge imprévisibles, intrusives et pas assez directes. Pour certains, cela influence même leur choix d'emploi. Employeurs, soyez avertis. Afin de comprendre pourquoi, la presse est entrée en contact avec trois jeunes adultes concernés par ce phénomène, par texto, bien sûr. Nos conversations se sont déroulées, au choix des trois jeunes adultes, par messages vocaux, sur Teams ou par FaceTime. Jérémy Filion, 23 ans, avoue que le facteur téléphone ne l'a pas encouragé à conserver un précédent emploi. Pour sa part, Gabrielle Dufour, 24 ans, apprécie son travail en tant qu'infirmière auxiliaire car, entre autres, elle n'a jamais à utiliser son téléphone à moins d'avoir à noter rapidement quelque chose. Leurs raisons sont variées. Un texto, par exemple, permet de répondre quand on a le temps, d'aller droit au but et de planifier son intervention. Un appel vidéo, de mieux saisir les intentions de l'autre grâce à ses expressions faciales. Mais le téléphone. Tous ont immédiatement soulevé l'imprévisibilité de la chose. Un appel qu'on n'attend pas peut générer de l'anxiété, ou du moins un petit stress, explique la docteure Emmanuelle Bastille-Denis, psychologue spécialisée en troubles anxieux et en troubles du sommeil. Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle? Une bonne nouvelle? Est-ce que c'est sérieux? Se questionne Jérémy, étudiant au baccalauréat en communication à l'Université Laval. Selon une enquête menée en 2024 par Oswich, un comparateur de prix anglais, plus d'un adulte de 18 à 34 ans sur deux présume qu'un appel inattendu est une mauvaise nouvelle. La docteure Bastille-Denis, qui fait des capsules éducatives sur sa chaîne TikTok, a par ailleurs publié une vidéo sur le sujet qui a cumulé plus de 50 000 visionnements. Parmi les commentaires, quelques internautes confient que leur emploi ne serait pas le même s'il impliquait de s'entretenir au téléphone, ce qui n'a pas surpris la psychologue. De façon générale, les gens qui vivent de l'anxiété peuvent essayer d'éviter leur peur, ajoute-t-elle. C'est le cas de Gabrielle Dufour, qui explique elle-même son malaise par l'anxiété sociale. D'autres, comme Maxime Larouche, sont simplement embarrassés d'interagir au téléphone si des personnes autour peuvent entendre. Ce qui ne l'empêche pas de partager sa vie au grand jour sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui sont très doués pour connaître les codes d'une conversation, mais qui ont une forme d'anxiété de performance, rappelle la docteure Emmanuelle Bastille-Denis. Des différences générationnelles. La génération est un facteur, oui. Mais pas le seul, observent les professionnels en ressources humaines avec qui la presse a parlé, dont Annie Boilard, présidente du cabinet spécialisé en ressources humaines Annie Réseau RH, qui confirme que les employeurs sont au courant de l'aversion des jeunes travailleurs à l'endroit du téléphone. Pourtant, un outil de travail jugé comme indispensable il n'y a pas si longtemps. Madame Boilard nous dit « Des fois, on demande aux plus jeunes d'entrer en contact avec des clients, puis il y a beaucoup de réticence. Ce n'est pas facile non plus de les faire appeler, même quand ça fait partie de leur tâche, de leur responsabilité. Souvent, les générations plus âgées ne comprennent pas pourquoi un employé a envoyé un texto ou un courriel au lieu de composer un numéro, a-t-elle remarqué dans sa pratique. Imaginez le patron dont l'appel se fait ignorer par son employé qui est en télétravail, illustre Madame Boilard. Il est censé travailler. Pourquoi il ne me répond pas? Peut se demander l'employeur. Et l'employé, de son côté, pourrait lui envoyer un texto et se buter à une absence de réponse lui aussi. Mais est-il vraiment plus négatif d'emprunter la voie du texto? D'après les observations de Mme Boilard, on pourrait même avoir une réponse plus rapide, car la personne au bout du fil pourrait, elle aussi, préférer cette prise de contact. C'est plutôt une évolution de la façon de communiquer, conclut-elle. Catherine Légaré, cofondatrice et présidente d'Elo, une plateforme de mentorat en milieu professionnel, abonde en ce sens. L'automne dernier, l'entrepreneur, qui détient aussi une formation en psychologie, a présenté une conférence sur la façon d'adapter sa gestion aux différentes générations. Le plus grand constat? Le téléphone est intrusif aux yeux de plusieurs. À son avis, il y a certainement des différences générationnelles, mais il faut aussi prendre en compte les changements dans nos comportements au travail en général. Sur ce point, Gabriel Dufour est entièrement d'accord. C'est plus simple, un texto, parce que je peux faire autre chose en même temps, note la jeune femme. De son côté, Jérémy y voit même l'avantage de réfléchir davantage à une réponse adéquate. Il y a vraiment la volonté de gérer sa productivité, dit Catherine Légaré, d'avoir un contrôle sur ses communications, de ne pas avoir des conversations à froid. Madame Légaré est aussi la fondatrice d'Academos, une plateforme qui permet aux jeunes d'en apprendre sur le monde du travail grâce à des mentors. Vous écoutez La génération qui ne parle pas au téléphone, un dossier de Mégane Foy paru le 18 janvier 2025 dans la presse. La pression d'être connecté en tout temps. Conclusion. La génération Z arrive sur le marché du travail au moment où les moyens de communication ne cessent de se multiplier. Depuis la pandémie, la population se sent davantage obligée de répondre très rapidement à ses textos, à ses courriels et à ses appels téléphoniques, alors qu'elle était cloîtrée à la maison, remarque la docteure Emmanuelle Bastille-Denis, et ce, peu importe l'âge. Cet événement peut avoir eu l'effet d'exacerber la pression et l'anxiété vécues par certaines personnes au travail. La psychologue souligne toutefois que d'autres peuvent ressentir ce petit stress seulement dans leur vie personnelle. Il y a parfois un cadre mieux défini au travail. J'appelle un client, ça va se passer de telle façon. Il y a la notion de prévisibilité, moins d'incertitude, conclut-elle. En savoir plus. 19%, proportion des adultes québécois de 18 à 34 ans ayant ressenti des symptômes d'anxiété entre 2020 et 2023. Il s'agit de la tranche d'âge la plus touchée. Source, Observatoire sur la santé et le mieux-être au travail de l'Université de Montréal. 6 sur 10. Proportion des adultes de 18 à 34 ans qui préfèrent recevoir un message texte plutôt qu'un appel téléphonique en 2024. Source, Auschwitz. Pour être sur la même longueur d'onde. Trois spécialistes vous font part de leurs conseils pour tirer le meilleur des différentes générations, mais aussi des trucs pour être un peu plus serein la prochaine fois que vous prendrez le combiné. Employeur, ouvrez la discussion. Dans une perspective de consolidation et d'optimisation du travail, comment peut-on créer des ponts entre tous? Le conseil de Catherine Légaré? Rassembler ses employés dans une discussion sur le sujet. Cela permet non seulement de prendre connaissance des préférences de tous, mais aussi de comprendre ses collègues. Quand est-ce qu'on utilise le téléphone? Quand est-ce qu'on utilise les textos? Est-ce correct de les utiliser? Donne en exemple Catherine Légaré d'Elo. le conseil d'Annie Boilard, s'ouvrir aux nouvelles façons de recruter. Maintenant, on ne voit plus beaucoup de personnes qui vont venir en présentiel donner leur CV, constate l'experte en ressources humaines. Il est donc intéressant pour une entreprise de présenter un poste vacant en ligne. Certains candidats même manifestent simplement leur intérêt auprès de l'employeur sur certaines plateformes, comme LinkedIn, et n'envoient même pas de CV. Ces réseaux sociaux renferment souvent bien des informations professionnelles, car il est possible d'y afficher toutes ses expériences en milieu de travail. Employé, adaptez-vous à votre interlocuteur. Évidemment, chaque personne a un mode de communication préféré. Autrement que par l'âge, il peut varier en fonction de l'emploi occupé par quelqu'un, mais aussi d'autres variables comme l'heure de la journée. Mais si on n'est pas certain, qu'est-ce qu'on peut faire? Le truc de Catherine Légaré? Cibler les inconvénients. Ils permettent de trouver des compromis pour y remédier. D'un côté, vous préférez vous adresser à quelqu'un de vive voix. Votre collègue, lui, vous indique qu'il est parfois incertain de bien comprendre les intentions d'une personne lors d'un appel. Vous pourriez ainsi lui proposer de communiquer par téléconférence sur des plateformes comme Zoom ou Teams. Il faut que ce soit inclusif pour tout le monde, note la spécialiste. Le truc d'Annie Boilard. J'aimerais te parler de... Appelle-moi lorsque tu auras 2 minutes. Un texto qui peut sembler banal pour certains et anxiogène pour d'autres. Le truc infaillible de Madame Boilard. Si on souhaite vraiment parler au téléphone à quelqu'un, on peut simplement ajouter « J'aimerais te parler de... » De cette façon, la personne au bout du fil sait exactement à quoi s'attendre. On peut même planifier le moment de l'appel lorsque cela est souhaité. En finir avec l'anxiété causée par le téléphone. La docteure Emmanuelle Bastille-Denis, psychologue, qui est également fondatrice du Centre de traitement de l'insomnie, donne plusieurs conseils pour surmonter le petit stress que peut occasionner un appel. Identifier sa peur. En évaluant ce qui vous préoccupe, il est plus facile de déconstruire sa pensée. La peur, si on la démystifie, elle a beaucoup moins de pouvoir sur nous, explique la psychologue. Elle invite même à se questionner sur l'endroit où est portée notre concentration dans la discussion. Cela permet de réaliser que la chose sur laquelle on est le plus concentré, par exemple, sa façon de parler ou son ton de voix, n'est pas la discussion elle-même. Utiliser des codes de conversation. Utiliser des formules communes ou des règles de politesse permet d'entrer plus facilement en contact avec les gens au téléphone. Ça se pratique, puis ça se demande, dit la docteure Bastille-Denis. Elle suggère de ne pas se gêner et de poser des questions aux membres de sa famille ou à ses amis sur les formules qu'ils empruntent. Prévoir des mots-clés. Non, il n'est pas mal vu de prévoir les éléments dont on voudrait discuter, ne serait-ce que dans l'objectif de ne pas les oublier. On pourrait même s'entraîner devant le miroir. Ce n'est pas niaiseux de faire ça, indique la psychologue. C'est juste de s'aider, de se trouver les moyens d'être créatif. En savoir plus. Innovation et sagesse. Le mentorat intergénérationnel en 2025. C'est le thème que s'est donné cette année le mois du mentorat souligné en janvier 2025. C'était « La génération qui ne parle pas au téléphone », un dossier de Mégane Foy, paru le 18 janvier 2025 dans La Presse.
Relations amour-haine. Un texte de Julie Vaillancourt, paru le 28 janvier 2025 dans le magazine Fugue. Aimer peut faire mal. Si cette phrase apparaît comme une contradiction, elle est pourtant bien réelle. Je sais, le sujet est plutôt lourd pour l'édition de la Saint-Valentin. je me devais de faire honneur à mon cynisme habituel du 14 février. Combien d'entre vous ont eu des relations passionnées suivies de grands moments de désespoir, de détachement ou d'indifférence? De grands bonheurs, un amour fou et puis plus rien. De grands moments d'extase qui font ensuite place à la monotonie et parfois même à la colère. Une grande colère vis-à-vis d'une personne qu'on aime. C'est possible, malheureusement. Cette colère peut venir de plusieurs endroits. Faire face à un sentiment d'impuissance, une perte de contrôle, une façon d'extérioriser sa peine, sa tristesse, pressentir le potentiel gâché d'une relation, d'un individu, etc. Au terme de ma première relation, j'éprouvais beaucoup de colère quelques mois, voire quelques années avant notre séparation. À un point où être dans la même pièce qu'elle me rendait tendu, frustré, colérique, je n'étais plus moi-même. Je ne me reconnaissais plus. Au lieu de vivre dans l'ombre de moi-même, j'ai décidé de mettre un terme à ce que je ne pouvais accepter, la fin de notre relation. On change avec les années et parfois, malgré toute notre bonne volonté et notre amour, nos routes se divisent. On dit que le temps arrange les choses. Il tempère les choses, certes, j'ai parfois ces moments de colère, quoique beaucoup moins intenses qu'à l'époque. Le secret est de pardonner, me dit-on, pour avoir le cœur plus léger. Pardonner à l'autre et à soi-même. Ce n'est pas faux, mais ce n'est pas aisé. Avec les années, j'ai appliqué un certain laisser-aller en me concentrant sur ce que je pouvais contrôler, mon bonheur. Je n'ai jamais trouvé cela évident, puisqu'à mes yeux, mon bonheur dépend beaucoup des autres, ou plutôt de la relation que j'entretiens avec les autres personnes que j'aime et qui m'aiment. Bref, les bonheurs que je retire de mes interactions sociales avec les autres. Perso, je ne pourrais pas m'épanouir en vivant seul dans une cabane isolée en forêt. J'ai besoin d'interactions sociales. Je crois que tout être humain est un être social et éprouve ce besoin à l'intérieur de lui, à un certain degré, même si certains font plus d'anxiété que d'autres ou sont moins sociables que d'autres. Dans mes relations amoureuses et amicales, j'ai toujours trouvé difficile de me positionner, de trouver mon bonheur par rapport aux autres. Le fait est qu'on doit toujours définir et exprimer nos émotions, nos positions, nos étiquettes sociales. Quand j'ai fait mon coming out, j'ai tellement craint la réaction de mes proches. C'est comme si j'avais tout mis dans les mains des gens que j'aime pour décider de mon bonheur, comme si j'attendais leur consentement vis-à-vis de ma relation et de mon orientation sexuelle pour être heureuse. Heureusement, j'ai des bons, bonnes amies ouverts, ouvertes d'esprit. Tout ça pour dire à quel point le regard des autres peut être important dans une relation, bien que cette relation ne se déroule pas nécessairement sous le regard des autres. Aimer, c'est avant tout un acte intime. Que ce soit votre amoureuse, votre ami ou vos parents, l'amour que vous portez à cette personne est différent, mais n'a certainement pas besoin d'être public pour être validé. Pas besoin d'identifier votre amoureuse sur Facebook pour qu'elle sache que vous l'aimez vraiment. Pas besoin que votre voisin vous dise que vous formez un beau couple pour réellement croire à votre couple. Il suffit de regarder au fond de vous le ressenti et, le plus humblement du monde, accepter de vivre vos émotions avec la personne pour qui vous ressentez ces émotions. Que faire quand ces émotions sont conflictuelles? Vous haïssez la personne que vous aimez? Vous aimez la personne que vous haïssez? Est-ce que vivre une relation amoureuse sainement est possible? Personnellement, je ne crois pas. Du moins, pas lorsque cette dualité est constante. Avoir le cul poigné entre deux chaises, c'est non seulement inconfortable, mais irritant à la fin. Sans pardon ou bilan ou travail important sur soi-même, la haine prend le dessus sur l'amour. Et nous avons malheureusement une myriade d'événements médiatisés de colère incontrôlée menant à des actes informés par la colère. Et, bien sûr, transformée à divers niveaux selon divers facteurs socio-économiques, physiologiques, psychologiques, etc. Prenez par exemple les féminicides. Il y en a eu 25 l'an dernier, seulement au Québec. Des femmes ont toutes été tuées aux mains des hommes. Souvent des hommes étant en relation d'amour et ou d'amitié et ou familiale avec le meurtrier. Des hommes en colère contre leurs femmes, leurs filles, leurs mères, celles qu'ils aiment ou avec lesquelles ils entretiennent une relation amour-haine. La Coalition féministe contre la violence envers les femmes recense ces féminicides en nous rappelant qu'il n'y a pas de petits féminicides. Malheureusement, il y a des actes horribles, comme ceux commis envers Gisèle Pélicot, qui nous rappelle que l'humanité est abjecte et que l'être aimé n'est pas toujours celui que l'on croit être. Cela dit, Mme Pélicot, avec un courage sans bornes, nous rappelle le plus beau des messages. Ici, la honte change de camp. La tête haute, elle regarde ses agresseurs. La tête haute, elle ne laisse pas transparaître sa colère. La tête haute, elle affirme que son amour-propre, celui qu'elle porte à elle-même et à ses valeurs, peut tout changer et peut être plus fort que la violence et la haine des autres. Bravissimo. C'était « Relation amour-haine », un texte de Julie Vaillancourt paru le 28 janvier 2025 dans le magazine Fugue.
L'avant et l'après de Jessica Broder, un texte de Catherine Anfield, paru le 4 avril 2024 dans la presse. Jessica Broder est une passionnée d'activité physique et ses réseaux sociaux regorgent de photos avant-après. Mais pas dans l'ordre habituel. Rencontre avec la pétillante jeune femme ex-concurrente de Bikini Fitness qui vient de publier le récit des troubles alimentaires qui ont longtemps contrôlé sa vie et de son rétablissement. Jessica Broder nous accueille dans son bungalow de la rive sud, tout sourire, les yeux rieurs, vêtue d'une combinaison d'entraînement. Pour la prise de photo, elle nous entraîne au sous-sol, là où se trouve son petit gym. C'est ici que Jessica, instructrice certifiée, anime des entraînements virtuels. En personne, la jeune femme de 35 ans dégage la même chose que sur sa page Instagram, de l'énergie, de la joie et de la bonne humeur. Jessica Broder a pourtant traversé une période sombre dans un passé pas si lointain. 5 ans de troubles alimentaires. Orthorexie, l'obsession de manger sainement, bigorexie, l'impression de n'être jamais assez musclé, hyperphagie, les compulsions alimentaires mais sans méthode compensatoire. Elle a vécu des périodes de grande détresse, affamée et recroquevillée en boule sur le sofa, honteuse d'avoir mangé une cuillère de beurre d'amande ou encore engourdie par des orgies alimentaires. Engrenage. De retour d'un congé de maternité, déjà soucieuse de son poids, Jessica Broder a été embauchée au service de marketing d'une grande entreprise de gym. Elle a décidé d'utiliser les services mis à sa disposition, nutritionniste, kinésiologue. Pourquoi pas? Dans son récent livre « Le corps que j'ai maintenant », Jessica Broder évoque cette première pesée sur une balance qui mesure le taux de gras et de muscles. Elle vient alors de mettre le pied dans un engrenage qui l'amènera, 5 ans plus tard, à demander de l'aide. Mais cette fois, auprès d'une psychologue et d'une nutritionniste spécialisée en troubles alimentaires. L'alimentation, l'entraînement et l'image corporelle en était venue à prendre toute la place. Elle a perdu beaucoup de beaux moments. Avec son fils, avec son amoureux, avec ses collègues, ses amis. Mes conversations étaient toujours axées sur ça, se souvient-elle, et c'est aussi tout le contrôle que tu t'imposes en voyant les autres manger. Tu es concentré à gérer tout ça et à te dire « Je fais donc la meilleure chose que tout le monde. » Jessica Broder l'admet, elle éprouvait un certain sentiment de supériorité à l'époque. Les concours de bikini fitness, auxquels elle a participé, précédés de restrictions alimentaires intenses et suivis de crises d'hyperphagie tout aussi intenses, lui ont procuré beaucoup de fierté. « J'étais supérieure et j'étais récompensée », écrit-elle dans son livre. Elle le réalise aujourd'hui, ça traduisait un manque d'estime de soi. On va chercher une valorisation rapide dans une société où on félicite quelqu'un quand il perd du poids, dit Jessica Broder. Écoutez son corps. À travers son rétablissement qu'elle a entrepris en 2019, Jessica s'est tranquillement défaite des règles rigides qu'elle s'imposait et de son obsession des calories et des valeurs nutritionnelles. Elle a appris à ressentir et à écouter les signaux que son corps lui envoie. À force de ne pas respecter ce que mon corps me disait de faire, je n'étais plus connectée, résume-t-elle. Elle a fait la paix, aussi, avec les aliments qui l'ont longtemps obsédée, comme le beurre d'arachide et les biscuits Oreo. Et depuis le début, Jessica Broder partage son vécu sur sa page Instagram, souvent avec humour et légèreté, mais en abordant les vraies affaires. La diversité corporelle, la grossophobie médicale, l'importance de ne pas commenter l'apparence des autres, l'inclusion des personnes de toute taille dans le monde de l'activité physique et dans la société en général, le mirage des photos parfaites sur Instagram. Ce qui se cache derrière les photos de moi avant, c'est beaucoup de détresse, de mal-être et d'émotions désagréables, dit-elle. Et l'après, c'est moi qui suis plus heureuse et plus en santé que jamais. Même si tu vis dans un corps qui est plus gros que le corps standard, tu n'as pas besoin de le changer. Et tu as le droit de vivre une vie heureuse. Tu as la même valeur comme personne, croit celle qui a gagné cette semaine le prix Équilibre, remis par l'organisme du même nom, voué à la promotion d'une image corporelle positive. C'était l'avant et l'après de Jessica Broder, un texte de Catherine Anfield, paru le 4 avril 2024 dans la presse.